Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Max et Mel Trudel.
Hey, salut Mel.
Hello, hello.
On dirait vraiment qu'on est à deux doigts d'animer une game de baseball.
Quasiment. Ah, oh, quel bonheur de retour en forme, en toute en pleine énergie, toi aussi.
Bonheur partagé, ben oui.
Yes, enfin.
Hey, fais-tu bien.
On est sorti de...
de notre torpeur.
Yes, sir. Donc, on commence cette semaine en force ce soir. Ce sera une semaine mouvementée. On a des invités de tout genre cette semaine. Restez avec nous là, toute la semaine, je vous garantis. Vous ne serez pas déçus. Ce soir, on a Dr Paul Simard, psychologue, qui sera avec nous. On a également demain soir Kate et Dan, qui sont les propriétaires de l'Auberge de la Passion.
J'ai hâte d'en apprendre davantage là-dessus.
Auberge de la Passion, qui est une auberge qui est également un club libertin, où les gens peuvent sortir, rencontrer, dormir là-bas. Donc, on va discuter avec eux, en fait, de leur histoire de couple et de comment ils en sont venus à ouvrir ou à être copropriétaire de ce club-là, finalement.
Dormir, c'est-tu avec des guillemets ou on va vraiment là pour dormir?
Dormir, il y a des chambres thématiques. Et,
entre guillemets.
Voilà. Je tiens à vous dire également qu'on est en live sur TikTok et mon Dieu, vous êtes déjà plus bientôt 200 personnes qui nous écoutent en direct.
Bonjour Internet!
Bonsoir tout le monde. Donc, le TikTok de la Sexploratrice, Mademoiselle Trudel, vous pouvez nous retrouver directement en live en ce moment. Par contre, c'est via le 418-670-9098. Qu'on veut vous entendre et vous lire.
Absolument, sur la messagerie et par téléphone aussi.
Par téléphone, effectivement, vous pouvez nous contacter ce soir. Le sujet sera vraiment très intéressant. Mais juste avant, moi, j'aimerais savoir, Max, qu'est-ce que tu as fait ton week-end?
Oh, j'ai fait une panoplie de choses en fin de semaine, mais surtout, j'ai fêté les 30 ans de ma blonde en fin de semaine. Ça a été vraiment le fun. J'ai organisé un petit surprise party, imagine-toi donc.
Oui.
Ça faisait un mois et demi, je travaillais là-dessus. Fait que je l'ai amené au restaurant fin de semaine. Hey, ça a été tellement quétaine, mon affaire. Là. J'ai bandé les yeux avant de l'amener. On a roulé pendant 30 minutes en char. J'ai divagué un peu à gauche et à droite. J'ai fait des cercles dans des rues qui n'existaient pas pour la mêler. Après ça, je l'ai fait rentrer dans le restaurant, les yeux bandés. Puis une fois dans le restaurant, merci à la Scala d'ailleurs, là, avec qui on a déjà été partenaire ici. Restaurant fantastique, l'ambiance a été formidable. Puis je l'ai fait rentrer dans le restaurant, j'ai enlevé le bandeau, puis là, toute sa famille était là, tous ses amis étaient là. On a vraiment, vraiment passé un bon moment. Ça fait du bien, surtout de voir la personne que t'aimes remplie d'amour.
Tellement.
Je pense que c'est ça qui m'a le plus frappé là-dedans, de voir, mais c'est ça, la personne que t'aimes comblée, sereine, puis aimée des gens qui l'entourent aussi. Fait que moi, non, ça a vraiment été un beau week-end. Toi, comment t'as vécu ton week-end?
J'ai relaxé. En fait, je fais pratiquement plus rien de mes week-ends depuis 2 mois.
Une vraie ermite.
Je relaxe. Je me repose, puis le fait d'avoir été malade, ça m'a obligée à déléguer. Donc maintenant, ben, ma compagnie roule, mes événements roulent, puis j'y suis pas.
Mais c'est un apprentissage,
mais
apprendre
vraiment?
À rien faire. Parce que surtout toi, là, parce que tu bouges tout le temps à gauche et à droite.
Oui,
là,
tout le monde pense que je suis toujours un peu éparpillée à gauche et à droite, mais non, vraiment, je prends du temps pour moi, pour mon fils, ma famille, mon amoureux. Puis c'est parfait comme ça, ça me fait du bien, enfin, de m'arrêter. Ça fait 10 ans là, que je roule à fond la caisse.
Ouais.
Donc, c'est ça. Fait que non, c'est merveilleux. J'ai relaxé vraiment. Dans la gratitude, comme toujours.
Ah, oui!
Notre fameuse gratitude. Hein?
Partout
on aime ça.
Autour de moi, on emploie maintenant le mot gratitude.
C'est fou, hein?
Depuis que t'as amené ça sur la map, là, tout le monde me parle de ça. Écoute, il y a quelqu'un près de moi qui m'a dit « J'ai de la gratitude pour l'eau, v'là pas longtemps. »
Ben oui! Mais en mangeant tantôt, je disais ça aussi à mon chum. Je dis... Oh, j'ai tellement de gratitude pour ça. Oh, j'ai tellement de gratitude pour ça. Tu sais, juste de pouvoir animer comme ça tard le soir, ça me laisse toutes mes soirées de libre, du temps de qualité parfois de jour même. Tu sais, c'est en tout cas, bref, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude envers beaucoup de choses ces temps-ci et je veux vous lire 418-670-9098. Vous avez de la gratitude pourquoi? Hein? Vous avez de la gratitude pourquoi aujourd'hui?
On veut le savoir.
On veut le savoir. On veut savoir.
Est-ce une personne près de vous? Est-ce quelque chose que vous avez fait ce week-end? Est-ce quelque chose que vous avez vécu aujourd'hui?
Que vous avez célébré ou...
Bon. Toutes les possibilités sont bonnes.
Voilà. Et je le répète, on est en live sur TikTok et Dr Paul Simard, psychologue également. Mais on ne lit pas les commentaires sur TikTok. En fait, sur le TikTok de Mademoiselle Trudel, la sexploratrice, c'est vraiment via le 418-670-9098. On va maintenant vers notre sujet principal avec... Le doc Simard, psychologue.
Salut, Paul.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Docteur Simard.
Alors là, c'est un sujet sensible ce soir. J'espère que vous n'allez pas trop exagérer dans vos questions.
On fait jamais ça.
Ça devrait bien aller.
Je vous watch.
Mais c'est un sujet qui va faire jaser. C'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de gens, pour ne pas dire presque tout le monde. Ce soir, on parle de jalousie. Des différents types de jalousie. Les causes de la jalousie. Comment est-ce qu'on peut se sortir de la jalousie?
Oui.
Et à un moment ou à un autre dans notre vie, je pense que... Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que tout le monde est jaloux à un certain moment? Ou...
La réponse est non.
Ah!
Parce que ça,
il y a des gens qui ne sont pas du tout.
Ça va dépendre de notre construction d'apprentissage monde affectif. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir une faille qui va aller plus par là, mais il y en a d'autres que ça va être de l'autre côté. Donc,
on
ne peut pas penser que tout le monde vit des grosses crises de jalousie. Mais d'une certaine manière, le monde affectif, on y a pas mal tout accès à travers nos expériences. On s'est tous sentis choisis, on s'est tous sentis pas choisis. Donc, à travers notre historique affectif, on a des repères bien souvent.
C'est ça, j'ai toujours pensé qu'à certains moments et à certains degrés, la jalousie était une conséquence inéluctible de l'amour. C'est-à-dire qu'on la vit tous à un certain moment, à un certain degré.
C'est pas
possible?
Ben, oui. Je pense que c'est pas dans toutes les relations, inévitablement, qu'il y a de la jalousie.
Non, mais ça se peut que des fois, on est confronté à un événement qui nous amène à en ressentir, même si on n'est pas quelqu'un de jaloux.
Qui nous emmènerait peut-être vers une jalousie plus réactionnelle.
Il va falloir examiner des définitions, puis également examiner sur est-ce qu'il s'agit de jalousie épisodique ou si c'est l'ensemble de l'histoire de la relation qui s'ancre dans la jalousie.
Exact. Et il y a beaucoup de gens qui croient que la jalousie est inévitablement liée à de l'amour. Ah, ben c'est normal que je sois un peu jalouse, c'est parce que je tiens à toi.
Ouais, exact, c'est un bon point.
Ça, c'est faux, ça.
Ben, d'une certaine manière, ça pourrait être vrai.
Oui?
Ben oui, parce que...
Mais quand on aime quelqu'un, on devrait pas lui vouloir le mieux ou la... Je sais pas, non?
Non, ça, c'est une version très idéalisée de l'amour.
Oui, c'est Disneyland.
Parce qu'en réalité, ça peut brasser en maudit une relation amoureuse. C'est des sentiments qui sont des vagues, une tempête. Puis il va falloir vraiment distinguer la jalousie normale de la jalousie pathologique.
Oui.
OK, qu'est-ce que la jalousie normale et qu'est-ce que la jalousie... pathologique?
Ben, on pourrait dire que la jalousie normale, entre guillemets, c'est que je sens qu'il y a une menace sur quelque chose de précieux. Puis on se rappelle que les sentiments, ce sont des signaux d'alerte qui s'allument pour nous dire « Hey, il y a une valeur ici là, qu'il faudrait que tu régules. » Puis c'est la valeur de protéger ce qui est précieux.
Mais l'aspect menace, est-ce qu'il est important?
Ben, si, il est situationnel.
OK.
Temporaire. Régulable. Puis qu'il permet de protéger quelque chose. Là, on est dans une jalousie saine. Donc, c'est temporaire pour protéger, puis ça se régule. Mais là, on va glisser vers le pathologique quand ça devient non plus situationnel. J'ai plus besoin d'aucun déclencheur pour me sentir jaloux. Ou j'en invente avec des distorsions cognitives. Là, ça peut glisser jusqu'à la paranoïa.
Ouais.
Un contrôle vraiment excessif, de la surveillance, du tracking GPS en temps réel, en continu. Donc, c'est plus sain, là. C'est plus non plus contextuel. C'est là où je faisais la distinction tout à l'heure entre est-ce un épisode de jalousie ou c'est l'ensemble de l'histoire qui est la jalousie?
Parce que je pense que, mettons, dans une soirée, une personne accorde beaucoup d'attention à la personne que t'aimes.
Oui.
Oh, ça peut venir te travailler, peut avoir un petit sentiment de jalousie.
Oui.
Qui ne perdure pas nécessairement.
C'est ça,
finalement,
ça serait
c'est
temporaire.
Ça,
pourrait
ça,
être
ça
très
serait
simple.
Temporaire. OK. Il y a des formes de jalousie, par contre, qui sont, comment dire, incitées. La jalousie incitée, c'est que ça vient du comportement de certains partenaires séducteurs, tu sais, des partenaires qui...
Ils sont dans le flirt.
Qui créent vraiment, là, tu sais, qui veut vraiment se prouver que son pouvoir de séduction existe. Mm-hmm. Puis il a besoin, là, il entretient peut-être même consciemment des conversations ou des trucs sans nécessairement passer la... Sans tomber dans la trahison. Il va juste entretenir et peut-être même... mettre en permanence, semer en permanence le doute puis l'inquiétude dans la tête de l'autre. Et ça, ce serait volontaire.
C'est un peu psychopathe rendu là. Ouais. C'est manipulateur et vouloir jouir de la souffrance de l'autre.
C'est ça. Donc, c'est peut-être plus narcissique.
Peut-être. Mais si on prend une loupe là, et on examine les racines de la jalousie, est-ce qu'il y a un corollaire direct à établir entre la jalousie pure et dure et le manque de confiance en soi?
Moi, j'aimerais mieux le rapporter à l'estime de soi qu'à la confiance en soi. La différence, c'est que l'estime de soi, c'est ma croyance sur ma valeur, donc c'est associé au verbe « être », alors que la confiance, c'est la croyance que j'ai par rapport à mes capacités de faire. Donc, ce sont les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, une vision inférieure ou brisée ou faible d'eux-mêmes qui vont avoir tendance à dire « OK, le choc ou le conflit de la relation, c'est sûr que je vais perdre l'autre ou que je ne serai pas choisi. » Puis là, ils vont avoir tendance à s'effondrer intérieurement. Et de là, peut créer des pensées ou des peut apparaître des sentiments de désir de possessivité. Là.
OK. C'est donc de dire que ceux qui ont plus d'estime en soi ont moins tendance à être jaloux?
C'est un facteur de protection.
Mais je pense que si tu es dans une relation où tu as confiance en toi, tu donnes le meilleur de toi-même. Moi, c'est comme ça que je vois ça maintenant. Oui. Puis après plusieurs expériences, j'ai déjà vécu aussi des relations où je ressentais de la jalousie parce que justement, j'avais des partenaires qui avaient des comportements très louches, et quelques trahisons. Donc, j'ai ressenti des moments de jalousie. Mais je pense que selon le partenaire, c'est avec un partenaire qui inspire, en fait, en qui tu as vraiment confiance, qui a un style d'attachement sécure, si moi, je donne le meilleur de moi-même puis que j'ai confiance en mon partenaire, en fait, c'est que j'ai réalisé que je pouvais pas contrôler ni posséder personne.
Ouais.
Fait que quand même que je serais jalouse ou quand même que je voudrais pas que mon chum aille à telle place ou qu'il discute avec telle personne, ça ferait juste créer des malaises parce qu'en réalité, s'il a envie d'y aller, il va y aller.
Ouais.
Puis si c'est beau ce qu'on vit puis que ça va bien, notre relation et tout, s'il le fait... Puis que dans notre entente de couple, on n'est pas couple ouvert. Puis s'il passe la barre, ce serait lui le pire.
C'est vraiment la question de la réciprocité de l'entente qui a été convenue.
C'est ça.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, c'est bien correct, même surveille-moi parce que moi, je doute de moi-même ma capacité de me contrôler. Fait qu'ils font une entente de surveillance qui est consentie.
Hey, c'est pas sain, ça.
Hey, ça doit être quelque chose en tabarouette. Mais
on pourrait dire que c'est atypique.
C'est atypique.
Mais en réalité, l'équilibre conjugal, ça repose sur plein de sortes de piliers.
Oui, c'est vrai.
Il est faux de croire que ça repose seulement sur une entente. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, même après une infidélité, vont dire... Ben, il dit avant, moi, c'est sûr que je reste pas avec une personne qui est infidèle. Puis là, après, il dit, je vais y pardonner, parce qu'il trouve l'équilibre sur plein d'autres piliers dans la relation.
Mais là, tu parlais, par exemple, d'un couple, dont, mettons, un des deux partenaires a des tendances à être attiré par d'autres personnes, mettons, mais que le couple est monogame, et dont le partenaire, mettons, tous les deux surveillent l'autre, mettons.
Il y a des gens qui font ce genre d'entente-là. Ou qu'il y a des gens qui disent, toi, surveille-moi sur ce sujet-là, puis moi, je vais m'occuper de ce sujet-là pour toi.
Oui, en même temps, si ça fonctionne pour eux, qui sommes-nous pour juger?
Heureux,
exact.
C'est ça.
Ils sont heureux.
On n'est pas dans les culottes de ces gens-là.
Mais ça doit être angoissant.
Ben non, il y a toutes sortes d'équilibres.
De vivre au quotidien comme ça.
Et ça dépend. Un couple, c'est une équipe. S'ils ne sont pas capables de gérer ça individuellement, ils peuvent s'aider à le faire à deux. C'est sûr que pour nous, ça semble obscur là, comme technique, mais ça fonctionne pour eux.
Exact. Tout est dans le consentement ici, là, puis dans l'aspect réaliste de sur quoi repose l'alliance entre les individus. On aurait sinon tendance à avoir une vision très idéalisée de ce que ça devrait être.
Ouais.
Mais si on se fixe toujours des idéaux, on n'entrera jamais en relation réelle. Bon, dans le réel, il n'y a pas juste du beau. Mm. Donc, il faut savoir laisser de la place parfois aux blessures, aux choix bizarres. Je ne suis pas en train de les encourager quand je dis ça. Là. Je fais une description de la réalité, moi, de ce que j'observe en clinique. Là. Il est faux de croire que l'amour et le couple, c'est toujours beau. Mais
non,
on aimerait tous ça, par contre. On aimerait ça.
Oui, c'est sûr. Puis, si on y va, là, par exemple, avec les types de jalousie, là, on a le type de jalousie d'amour non partagé. Là, on tombe dans une forme de jalousie. Ça, c'est souvent la plus romancée. Là. C'est où est-ce qu'on a des amoureux qui pensent que l'autre n'est pas amoureux d'eux, qui aiment plus quelqu'un d'autre. Fait que là, ça, c'est quand même assez courant. Tu sais, si on compare par rapport aux autres types de jalousie. Ensuite, on a la jalousie illusoire. Ce serait l'aspect le plus répandu, selon ce que j'ai lu. Il s'agirait de suspicion d'un amour, d'un intérêt qui n'est pas fondé entre l'être aimé et de quelqu'un d'autre. Ça, comment est-ce que tu conseillerais au couple de passer par-dessus ça? Moi, tu sais, je me souviens, là, j'ai déjà été en couple avec quelqu'un qui était comme ça, là, qui s'imaginait des choses avec plein de monde. Puis, tu sais, j'y avais donné accès là, à mes messages. Regarde, tu as accès à tout le temps.
Ouais.
Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à faire.
Mais
ça faisait juste empirer.
Cet homme-là, est-ce qu'il avait vécu de l'infidélité avant?
Il en avait fait.
C'est ça. Probablement que c'est parce que lui savait que c'était possible de le faire sans trop avoir de conséquences.
J'suis
ou peut-être qu'il l'avait
avoué. Ça,
puis il sait que mentir, c'est possible. Fait qu'il craint tout le monde. C'est un peu ça, en fait. Là.
C'est comme un peu les voleurs le feeling que j'avais.
Des caméras.
Systèmes de caméras.
C'est ça, exactement.
Mais d'une certaine manière, c'est que tu étais bien intentionné. J'imagine dans l'exemple toi, que tu donnais.
Ah,
oh,
mon Dieu, mais moi, je disais, ben,
vas-y, regarde. Donc, si c'est épisodique...
Il peut me suivre partout, il peut m'accompagner partout, tout le temps. Moi, je vais juste comme le rendre
Mais si ça
bien...
avait apaisé, dès l'instant que tu avais ça, si ça avait apaisé, on aurait pu penser que c'est une jalousie de type normal qui était expliquée par une situation de crise, un vécu affectif qui était fragilisé à ce moment-là. Mais si malgré les preuves, malgré l'accès, il persiste encore avec des distorsions cognitives, des doutes irraisonnables, des accusations, des reproches, bien là, on glisse vers une jalousie pathologique. Là.
Alors, comment on compose avec ça? Si notre partenaire est jalouse ou jaloux, est-ce que c'est à nous de lui démontrer qu'il n'a pas raison ou qu'elle n'a pas raison de l'être, ou c'est vraiment à elle ou à lui de prendre sur elle?
Oui.
Puis de faire la part des choses.
Mais quand c'est de la jalousie normale, ça se règle dans une bonne communication. Puis si c'est de la jalousie pathologique, aucune communication va arriver au bout de ça. Ça va juste même alimenter les scénarios fantasmatiques, les distorsions. C'est pour ça que si vous êtes face à quelqu'un qui souffre d'une psychopathologie, ça va prendre une intervention professionnelle.
Dans tous les cas?
Ben, si c'est psychopathologique, ça demande un traitement, donc de la psychothérapie. Et au Québec, c'est un acte protégé par la loi. Là. Ça demande beaucoup de formation pour être capable de se promener dans l'intégrité de la personne, démêler les différentes pistes pathologiques. Parce que là, on pourrait peut-être même confondre plein de choses là ici. Là. Est-ce qu'on parle d'une personnalité de type paranoïaque? Est-ce qu'on parle d'un trouble anxieux? Est-ce qu'on parle d'une obsession? Est-ce qu'on parle de simplement l'instabilité intérieure, peu importe le thème? Donc, pour démêler toutes ces pistes-là pathologiques, ça prend un professionnel de la santé qui est apte à faire l'évaluation là-dessus.
Fait que la jalousie est un symptôme de beaucoup de conditions.
Oui, quand même, puis c'est là où je vais en venir, là, d'où est-ce que ça vient, mais il y a quelqu'un sur le live qui dit « Mais Mel, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec l'humain n'est pas monogame? » En fait, comme on l'a déjà dit, ce qu'on pense, ben, en tout cas, ce que tu as déjà dit, ce que Yvon Dallaire a déjà dit, l'humain serait monogame en série.
Ouais.
Donc, je pense, puis ça, moi, c'est quelque chose avec mon partenaire, tu sais, on s'en est déjà parlé, puis... J'ai l'impression que les couples qui s'ouvrent ou qui deviennent libertins, c'est après plusieurs années, ceux qui sont heureux là, et ceux pour qui ça réussit, là, c'est ceux qui sont en couple depuis plusieurs années, qui ont instauré vraiment une base solide, qui ont appris à vivre la compersion, qui est l'inverse de la jalousie finalement, et qui ont passé le stade de la passion, puis la chimie de l'amour, puis tout le cocktail chimique qui fait qu'on est passionné par l'autre, puis qu'on désire l'autre. Mm-hmm. Puis au bout de quelques années, ça s'estompe. Et ça s'estompe malgré qu'il y a encore de l'amour entre les deux partenaires. Mais il peut arriver à un certain moment où on peut être attiré par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et là, c'est à ce moment-là que tu dois consciemment faire le choix ou pas d'aller ou non vers cette personne-là. Est-ce que tu restes fidèle à l'entente de ton couple ou tu décides d'y aller puis d'être à l'écoute de tes envies sur le moment, tu sais? Donc, puis je pense que les libertins, eux, gèrent ça. Les polyamoureux également. C'est quelque chose qu'ils ont appris à gérer, à dire, regarde, j'aime mon amoureux. J'ai cette personne-là qui m'apporte l'amour et physiquement ou émotionnellement, je suis capable d'aller
chercher
ailleurs ce qui manque au niveau de mes besoins.
Récemment, on en parlait, puis je pense que c'est pas de l'acquis chez les libertins aussi. Là. Souvent, chez les libertins, dans un couple libertin, il y a peut-être plus une personne que l'autre qui désire avoir des aventures avec un autre partenaire.
Souvent, c'est un plus que l'autre. Parfois, quand on voit ça chez les couples de 5, 10, 15 ans qui sont ensemble, on dirait que ça devient comme un peu un projet complice.
Ben moi, j'ai plus vu que ça a scrappé des couples que d'autres choses.
Il y en a qui
j'ai peut-être un peu le billet d'être psychologue pour couple. Là, fait que les gens ils viennent me voir souvent quand ils ont des difficultés,
pas.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est parce qu'on n'a pas le contrôle quand on partage notre intimité sur ce qu'on va ressentir.
Donc, exact.
Même si les gens veulent faire une entente d'ouverture libertine, puis ils disent, on fait juste partager notre sexualité, là, hein? On reste, nous, le noyau d'amoureux. Ben tiens, tout d'un coup, il y en a un qui tombe en amour avec le nouveau partenaire
exact.
Parce qu'il découvre une connexion.
Fait
que c'est pas tranché au couteau, fait que c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Là. C'est ouvrir son intimité, même si les gens diront, ben la sexualité, c'est pas si intime, c'est mécanique. Ben moi, je trouve que c'est déjà très loin là, de la compréhension de
puis
qu'est-ce que l'intimité.
La sexualité est très différente avec quelqu'un avec qui tu ressens réellement de l'amour
ben oui.
Versus quelqu'un avec qui t'as pas d'amour puis que c'est ça, c'est que sexuel, centré sur le plaisir uniquement. quand il y a de l'amour, on en a parlé avec Isabelle, on a parlé de tantrisme et tout, sans tomber nécessairement dans le tantrisme, mais la relation est beaucoup plus intense lorsque tu aimes ton partenaire, tu sais. Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il y a des origines de la jalousie? Par exemple, au niveau de la famille, est-ce que tu penses que la jalousie pourrait naître très tôt dans un contexte familial, que ce soit fondé ou non? Là, tu sais, par exemple, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, la préférence marquée peut-être pour un enfant inconsciemment là, par les parents. Est-ce que ça, ça pourrait faire en sorte que la jalousie pourrait devenir une composante émotionnelle à vie par la suite? Ça peut-tu marquer?
Ben, plutôt que parler d'origine, moi, j'aime mieux parler de déclencheur.
Ah!
Parce que moi, je l'interprète vraiment, la jalousie, comme un sentiment. Donc, si on voudrait démêler rapidement là, la différence entre une émotion et un sentiment, c'est que l'émotion, c'est un signal d'alerte qui appréhende un besoin. Donc, c'est physiologique. Il n'y en a pas 10 millions des émotions, il y en a juste 5. Puis les sentiments, eux, ce sont des signaux qui appréhendent des valeurs. Mais ça mélange plusieurs émotions ensemble et des trucs culturels. Mais ça répond à la même mécanique, c'est un signal. Donc, je pense que ce signal-là affectif, il s'allume quand il y a quelque chose de précieux qui est menacé. Mais oui, ça peut être vécu dans la famille, la petite enfance, là. Si, par exemple, j'étais habitué d'être le bébé de la famille, puis là, j'ai toute l'attention de papa, puis là, tout d'un coup, il arrive un nouveau bébé. Oh, je suis plus le bébé, je suis plus le petit, celui qu'on focusait dessus, là, qui était cute.
Ça peut même créer une blessure d'enfance qui reste.
Fait qu'il y a une perte réelle à ce moment-là du regard sur soi qui peut créer une empreinte émotionnelle à l'intérieur de nous, là. Il y a un autre terme pour parler de ça, les empreintes émotionnelles. On appelle ça un souvenir.
C'est vrai.
C'est les mêmes structures dans le cerveau qui gèrent les émotions puis les souvenirs.
Ce que tu décris, c'est un portrait qu'on voit souvent chez les personnes qui sont enfants uniques dans une famille. Ils ont tendance, lorsqu'ils vieillissent, à avoir le centre de l'attention. Puis quand ils l'ont pas, ils deviennent jaloux d'à peu près tout le monde.
Ouais. Ils n'ont pas appris tôt dans la vie à partager l'attention, l'amour. Puis ça peut donner des crises de rage, là, d'exclusivité.
Exact.
Mais il faudrait pas penser qu'il y a une relation directe. Là. C'est comme une toile complexe. Là. Ça crée des fragilités, mais les gens dans la vie adulte ils peuvent faire des choix pour se construire, se sécuriser et puis enrichir leurs compétences.
Puis lorsqu'on sent une montée de jalousie, y a-tu des techniques qu'on peut mettre en place pour tenter de la contrôler ou faire en sorte qu'elle se dissipe lentement?
Oui.
Quelles sont-elles?
C'est agir sur soi plutôt qu'agir sur l'autre. Juste le fait d'observer à l'intérieur de vous-même, là, si vous êtes jaloux, là, le fait que, ah tiens, c'est souvent le même genre de scénario que vous vous passez quand vous êtes dans votre jalousie. Fait que la récurrence, la répétition du scénario, la répétition du type d'angoisse, ça devrait vous pister que ça appartient plus à quelque chose qui est interne qu'externe. Fait que passer du temps avec votre blessure, dedans, l'affaire qu'on veut pas faire à personne, mais puis qu'on va souvent apprendre en psychothérapie, c'est comment on fait pour répondre à notre besoin affectif nous-mêmes, créer un noyau de sécurité, puis là, on va mieux réfléchir sur s'il y a des choses à changer avec le partenaire. Mais il faut d'abord agir sur soi.
Sinon, faut agir sur soi, puis aller vers quelqu'un aussi, c'est ça qui est rassurant, tu sais.
Oui, choisir nos relations interpersonnelles sécurisantes.
On dirait que tant qu'on n'est pas guéri, justement, de nos blessures de trahison ou de trucs qu'on a vécu dans l'enfance, ben on a tendance à se tourner vers des partenaires qui vont activer ça.
Oui.
Ouais, vers des partenaires très séducteurs, des partenaires qui trahissent leur conjointe, puis c'est vraiment...
Ben,
c'est
les relations fortes, intenses, là, c'est souvent associé avec un manque ou une blessure.
Très intéressant. Il y a l'école aussi. Sans s'en rendre compte, les professeurs pourraient faire preuve d'injustice.
Ah oui, qui déclenchent des injustices.
Parfois, ben oui. Puis il y a des enfants qui sont parfois plus vulnérables que d'autres, puis ça peut les marquer.
Eh oui. Est-ce le rôle du professeur de gérer le sentiment de jalousie des enfants?
C'est une bonne question.
Mais en même temps, ils vont jouer là-dedans. C'est inévitable. Parce qu'en psychologie, c'est le début, l'école primaire, de ce qu'on appelle la socialisation secondaire. C'est là où on va apprendre à négocier notre place à travers les autres. Il y a même des études qui vont dire que c'est le rôle des parents avant la socialisation secondaire, donc dans ce qu'on appelle la socialisation primaire, c'est d'apprendre à l'enfant à avoir des compétences relationnelles pour qu'il soit accepté dans un groupe. Puis ça, là, cette compétence-là, quand on commence l'école primaire, ça va avoir tendance à perdurer comme style là, tout autour, au cours de la scolarisation puis de la vie. Ouais.
Il y a des cours d'empathie. C'est où, c'est en Suède qui donne ça?
Ça serait intéressant.
Oui, dans les pays scandinaves.
Oui, auprès des jeunes, aux primaires. Ça des cours de yoga, d'empathie, puis de méditation. Là,
Et là, on voit le rôle de l'école qui quitte le volet colère puis qui s'en
on
va
plus
sur
dans
le...
l'instruction.
C'est
là.
Ça, c'est le volet développement de l'individu.
Ouais.
Moi, j'ai un peu de mal avec ça, sincèrement.
Ouais.
Ouais. Ça devrait être le rôle des parents.
C'est au niveau des parents, mais regarde, on a...
Mais on peut pas dire à chaque fois, ouais, mais il y a des parents qui sont pas aptes à le faire. Je comprends, mais le rôle du professeur, c'est d'enseigner, là. C'est de donner de la matière. C'est pas de faire un cours d'éthique là, sur les moralités de la vie.
Je trouve ça quand même bien.
Ben oui, moi
ensuite,
aussi.
Ensuite, la vie amoureuse, ça peut être un facteur. C'est-à-dire que de vivre une... parfois d'avoir été trompé, t'sais, ça peut faire naître en nous un sentiment de jalousie, de méfiance et tout ça. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir une fois qu'on a vécu ça? Là? Ouais. Que même, parce que même la séparation peut avoir lieu, puis on peut quand même avoir comme du ressentiment ou de la jalousie envers le nouveau partenaire, par exemple. Si on a été quitté par quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on pourrait...
C'est comme une blessure du passé qui n'est pas blessée. C'est la blessure du passé qui n'est pas passée.
Oui.
Si elle est revécue constamment, c'est qu'elle n'a pas été soignée ou elle peut être juste redéclenchée parce qu'à la nouvelle relation d'amour, tout d'un coup, ça fait comme se connecter, ça, comme je disais, les toiles affectives à l'intérieur de nous. Fait qu'on tire sur la petite corde de l'amour puis oups, ça fait réveiller tout le reste de la toile des blessures.
Ouais.
Est-ce ça, que... là, c'est mortel.
Oh, je pense que oui.
Pour un couple.
Oh, complètement. Est-ce que la jalousie peut devenir contagieuse? Est-ce que dans un couple, si une des deux personnes en ressent puis l'autre a une estime de soi qui est assez béton pour pas qu'elle en ressente, parce que l'autre personne en ressent, ça peut provoquer de la jalousie chez elle parce qu'elle a un doute sur des choses qui sont peut-être pas fondées?
Oui, moi je l'ai observé souvent en thérapie.
C'est
les états affectifs, c'est contagieux.
Ben, je pense que c'est ce qui est arrivé dans mon cas.
Mm-hmm. Pour quelle
raison? J'avais des doutes sur ses comportements à lui et lui a commencé à douter. Tu sais, c'était comme une roue qui tournait.
C'était
là,
un ping-pong, un boomerang.
Ouais, non fondé, là. Tu sais, c'était pas sain du tout.
Ben, c'est ça, c'est
ben, non fondé, je veux dire, de mon côté.
Le doute, le stress, la tension, c'est ça qui est contagieux, quelque
part. Oui, exact. Donc, je serais curieuse d'entendre vos histoires de jalousie. Il y en a quand même plusieurs là, qui nous partagent ça. On va vous lire au retour de la pause, d'ailleurs. Il y a le 418-670-9098. Partagez-nous vos histoires de jalousie. Toi, Max, as-tu déjà eu affaire à des femmes jalouses?
C'est lui qui rend les femmes jalouses.
Il m'est déjà arrivé une couple de fois, mais non, pas de la jalousie maladive. La jalousie, oui, de temps à autre, ça m'est déjà arrivé d'en vivre de la part des femmes avec qui j'étais, mais pas quelque chose à s'arracher les cheveux de la tête, je te dirais. Ça a toujours été relativement sain, puis ce que je préconisais lorsque ça arrivait, c'est d'en jaser, c'est de s'asseoir ensemble, puis de comprendre d'où ça venait, quelle était la source de la jalousie, puis de tenter de voir ce qu'on peut faire pour pallier à ça. S'il y a de la jalousie, il y a clairement un manque de réponse.
Oui, exactement.
Faut poser les bonnes
souvent,
questions.
Souvent, c'est dans notre tête. Donc, dès qu'il y a un petit quelque chose, abordez donc le sujet tout de suite avec le partenaire.
Et même si vous l'abordez maintenant, ça se peut très bien que ça ne le guérisse pas d'un coup sec. Là.
Non, mais au fil du temps, ça pourrait, tu sais, juste de discuter
ça peut, c'est ça.
De ce qui déclenche. Puis, ça peut.
Des fois, juste que le fait que ça soit reçu, ça permet d'apaiser beaucoup. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ouvrir vos communications puis d'activer le tracking GPS sur votre cellulaire. Des fois, juste valider une émotion.
Ouais, ben c'est ça l'affaire. Je pense que lorsque votre partenaire vit de la jalousie, la première chose à faire, c'est pas d'invalider
c'est
ce qu'elle dit. De dire, voyons, t'as pas raison de penser
non,
ça. Pourquoi
ça.
Tu dis ça? Je ferais jamais ça.
La
ou j'ai jamais fait ça.
Ouais.
Faut vraiment pas l'invalider. Faut juste s'asseoir puis tenter de comprendre d'où est-ce que ça provient. Puis d'être à l'écoute, là, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire.
Oui, absolument. De l'accueillir. Et
pour ça, faut être
discuter.
Capable de pas le prendre personnel.
C'est ça qui est le plus dur là-dedans. Ah,
ouais. Ben oui, parce que ça peut être facile de se sentir accusé de quelque chose.
Ben oui, c'est comme. Ben oui, c'est ça. On se fait mettre en dessous de l'autobus tout d'un coup pour aucune raison parce qu'on les comprend pas. Fait qu'il faut juste pas le prendre personnel. Mais
exactement.
Y a-tu des choses qu'on peut mettre en place pour pas les prendre personnel, c'est-à-dire rester dans une communication ouverte, j'imagine que ça aide?
Oui, ben c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais lancé la piste d'agir sur soi.
Oui, effectivement.
Il faut comme créer la capacité d'absorber des fois des chocs, de l'incertitude, d'attendre que ça soit à notre tour de parler, parce que des fois, c'est au tour de l'autre. Des fois, il faut préparer le terrain pour que l'autre puisse émettre de l'information. Puis, c'est une communication efficace, là, c'est pas quelque chose qui se fait du tac au tac. Là. Ça s'installe, ça se cultive, ça se répète.
C'est comme un jardin.
Oui, voilà.
Il y a quelqu'un qui parle encore une fois là, du concept de la jalousie qui serait un concept occidental et religieux transmis à travers la monogamie.
Ah bon?
Ouais, mais en même temps, en Inde, ils faisaient des mariages forcés puis tout. Fait que...
c'est ça.
Peut-être occidental.
Mais je pense qu'à un certain moment, Comme j'ai dit tantôt, je pense que c'est possible d'être heureux avec une seule et unique personne tout au long de sa vie, mais c'est presque impossible à un certain moment d'être attiré, de ne pas être attiré par quelqu'un d'autre, puis ça n'a rien à voir avec l'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut différencier la relation et le sentiment.
Le sentiment, puis notre biologie aussi.
Exact. On n'a pas le contrôle sur ce qu'on ressent.
Exactement. Puis on peut être déclenché par quelqu'un, mais ça peut être un petit moment de passion soudain qui est éphémère puis qui disparaît tout aussi vite, là.
C'est ça. Puis on a tous des blessures différentes qui fait qu'on est capable d'absorber différents niveaux d'incertitude ou différents niveaux de trahison. Il y a des gens qui sont tellement fragilisés par ça que si un jour ils subissent des trahisons, ils font des actes tragiques, épouvantables, là, des meurtres familiales et tout ça. Il y en a là, des assauts là, de déchirement épouvantables. Mais même si ça peut finir de manière tragique, c'est pas toujours le cas. Faut pas tout pathologiser les réactions affectives. Il faut le voir de la même manière que l'agressivité, tu sais, à la base. L'agressivité, ça ne sert pas toujours à détruire, ça peut servir à protéger.
L'impulsivité, même chose.
Eh oui. Puis la jalousie, même chose aussi. Ça vise à la base à protéger quelque chose qui était précieux, qu'on ne voudrait pas partager. Parce que diluer quelque chose de précieux, c'est soit comme le salir ou le perdre. Fait qu'il y a des gens qui veulent protéger, qui ne veulent pas forcément contrôler.
Mais protéger versus contrôler, c'est bon, ça.
Mais aux yeux d'un observateur externe, ils vont voir la même chose. Ils vont voir une personne qui dit à l'autre, je me sens pas bien quand tu fais ça. Ouais, mais c'est quoi le pilote interne qui dit ces mots-là? Est-ce le contrôle ou est-ce le désir de protéger le précieux? Fait que ça peut demander beaucoup de temps en thérapie pour qu'on examine ce genre de nuances-là.
Oui. J'ai mon collègue qui me fait signe qu'il serait peut-être temps d'aller à la pause.
Bonne idée.
J'ai pas mis le temps à penser.
On va aller encourager nos commanditaires.
Bien sûr, continuez de nous texter votre gratitude de la journée. Il y en a plusieurs qui sont entrés. On va vous lire au retour de la pause. On va en lire quelques-unes. On ne vous lira pas toutes. Et vos quelques histoires de jalousie. On veut vous lire 88-670-9098. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice. Exploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec Max et Mel dans la Sexploratrice en compagnie de Dr. Paul Simard, psychologue. Ce soir, on parle de jalousie. Mais juste avant de retourner au sujet principal, je voudrais vous lire quelques gratitudes. Parce que j'aime ça. J'aime ça souligner ces moments-là de gratitude que les gens ont pour différents trucs. Et bon, on va commencer avec... je n'ai pas son nom, mais la personne a la gratitude pour nos voix avant d'aller se coucher.
Oh, c'est bien cool, ça. C'est merci.
Cute. C'est cute, c'est cute.
C'est cute, c'est
on
cute.
On a Dave de Shannon qui nous dit « Allô, on veut saluer Marilyn qui débute ce soir. » Salut, Marilyn!
What's up, Marilyn?
What's up, Marilyn? On a ici quelqu'un qui dit qu'elle a de la gratitude d'avoir décidé de se choisir et de faire un retour aux études à 26 ans pour changer complètement de carrière. Ça, là, c'est avoir du guts. Bravo.
Vraiment. Vraiment. Félicitations.
Gratitude,
on souhaite que ça fonctionne.
Gratitude pour mes deux parents en santé. Ils ont 70 ans. Ah, on n'a pas vos noms, par exemple. Écoute, vous avez texté en grand nombre ce soir. Vraiment, c'est super apprécié. Vous êtes nombreux également via le live sur TikTok. 418-670-9098 si vous avez envie de nous appeler ou de nous écrire. Max, on a un texto d'ailleurs qui est rentré qui est très intéressant que j'aimerais que tu nous lises de la part de Sophie.
Oui, Sophie nous a partagé un témoignage très touchant. Elle a vécu sa première relation amoureuse à l'âge de 14 ans. Ça s'était tiré jusqu'à l'âge de 23 ans avec un gars qui était 8 ans plus vieux qu'elle. Il était jaloux, possessif depuis le premier jour, mais elle a pensé que c'était normal puis que ça prouvait qu'il l'aimait. Ça l'a pas empêché de la tromper, cela dit. Dans sa deuxième relation qui a duré 17 ans, encore avec un homme très jaloux, au début, elle trouvait ça flatteur, mais elle a vite compris que c'était malsain puis destructeur pour elle. Elle dit qu'au final, elle s'était dit que plus jamais qu'elle voulait de partenaire jaloux, mais maintenant, en relation avec un homme aucunement jaloux, une relation très saine, puis étrangement, elle se sent insécure. C'est comme si elle avait l'impression qu'il aimait pas autant qu'elle le voudrait. Puis malheureusement, aujourd'hui, elle a tendance à éprouver pour elle-même de la jalousie, ce qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant dans des relations précédentes qui étaient dites « empreintes de la jalousie ». Et elle finit en terminant elle a dit en terminant, la jalousie laisse des marques émotionnelles profondes.
Oui. Mais oui, vraiment.
Accro à l'intensité.
C'est ce que ça semble être.
Oui, c'est les mêmes réponses physiologiques de la peur qui sont associées aussi avec celles de l'excitation amoureuse romantique. Fait qu'il y a des gens qui, à force d'avoir vécu des relations très intenses, très passionnel. Ça crée une empreinte à l'intérieur d'eux là, de terreur, puis ils ont l'impression que c'est ça l'amour. Puis dans une relation calme, ça laisse un vide qui pourtant pourrait être propice à l'apaisement. Mais ça réveille full d'insécurité parce qu'il me semble que je ne suis pas aimé correctement. Il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. J'ai pas... Donc, l'absence de repères, l'inconnu.
Il ne s'inquiète pas quand je pars. Il ne cherche pas à savoir je suis avec qui, tout ça. Ça peut créer.
Ouais.
Hey, c'est fou, hein, la vie. C'est fou,
les gens deviennent accros à la toxicité ou à l'intensité destructrice. Parce que ça, au moins, je connais ça. Ah.
C'est un repère.
Ouais, le sentiment de familiarité, des fois, c'est plus...
Mais c'est souvent ça, en fait. C'est que tout au long des relations qu'on a, jusqu'à ce qu'on ne soit pas guéri, c'est que ça va venir activer une zone connue en nous.
Oui.
Donc, c'est... On dirait que parfois, l'humain préfère être en zone toxique et connue...
Bien sûr.
...que d'aller vers l'inconnu de la beauté et oui. de la sécurité et d'une relation saine et douce.
Oui, c'est parce qu'on est des bébites biologiques. Puis la biologie, pour survivre, elle a découvert un moyen là, super puissant qui s'appelle la répétition. Parce que la répétition, c'est la première forme d'apprentissage de la biologie. Ça organise et régule. Donc, c'est pour ça que quand on retourne vers un comportement ou un pattern qu'on connaît, ça fait une espèce de feeling là, qui ressemble à « au moins ça, je connais ça ». Ça réduit l'incertitude, ça calme quelque chose. C'est un petit peu comme toute forme de croyance. Donc, croire, ça fait du bien, même si c'est pas vrai. Fait que c'est la même chose pour les patterns. Ça me fait du bien, même si c'est pas ça que j'avais besoin.
Paul, je t'ai déjà entendu parler dans un podcast, le podcast de Mme Myriam, oui. Liberté d'être. D'ailleurs, j'y serai cette semaine.
Oh yeah!
Yes! J'aimerais qu'on y aille ensemble. D'ailleurs, on devrait lui dire de nous inviter ensemble.
Il y en a partout des podcasts, hein? Ça n'a pas de bon sens.
Oui, mais il y en a certains plus que d'autres qui
sont Myriam, mauvais. Elle a l'affaire.
Ouais, trouve, c'est bon ce qu'elle fait vraiment.
Elle est bonne,
Myriam. Ouais, vraiment.
Ouais.
Ouais, ouais, je voudrais que je la présente. Donc, dans ce podcast-là, dans Liberté d'être, t'es allé quelques fois?
Ouais, quatre fois.
Quatre fois déjà. Je sais pas c'est dans quel épisode, là. Mais tu parlais des gens qui sortaient seuls de leur côté, sans leur conjoint, leur conjointe. Puis toi, tu semblais dire que c'était pas sain.
Je me souviens pas avoir dit ça.
Non? OK.
Vas-y, va, nuance plus.
Ben, en fait, puis il y a quelqu'un qui m'avait même partagé cette vidéo-là. Il semblait dire qu'il y avait comme... J'essaie de
peut-être
me souvenir. Là,
que c'était pas un acte neutre ou que ce n'était pas sans conséquence.
C'est que c'était comme... Oui, c'était pas sans conséquence. C'était comme de diffuser notre énergie ou notre amour, non? Ça dit-tu quelque chose?
Ben là, je replace pas l'extrait, mais je dirais que...
Tu parlais des gens qui sortaient seuls de leur bar. Tu semblais pas trop d'accord avec ça. Dans cet extrait-là.
Ça manque de contexte que je vais bien expliquer, mais... La piste peut-être qui me revient en tête, ce serait sur le fait que l'auto-sabotage là, d'une personne, c'est quelque chose de bien réel. Ça existe, l'auto-sabotage.
Okay.
Ben oui, ça existe.
Donc, il y a des gens qui, dans un couple, vont mettre en place des comportements d'auto-sabotage. Puis c'est pas ça qu'ils voudraient.
Ben, un peu comme ceux qui créent de la jalousie volontairement.
C'est ça,
là,
c'est,
ils vont,
c'est plus fort qu'eux autres. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait nier que... Le taux sabotage, elle existe en disant ben, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, on ne possède pas personne, donc on nie la possibilité d'auto-sabotage. Ou on se dit ben, toucher à ce sujet-là, ça sera un thérapeute qui fera ça. C'est pas au conjoint à toucher à cette affaire-là. Mais en réalité, peut-être qu'on pourrait aussi arrêter d'être naïf et parfois regarder qu'il y a certains gestes qui vont nuire à la relation. Donc, c'est peut-être dans ce cas-là, c'est de juste de lever le voile pour ne pas être naïf et penser que tout est permis, tout est beau et tout est sans conséquence.
Mais ceux qui tombent dans l'auto-sabotage, est-ce que c'est parce qu'ils ont des repères toxiques?
Ah, ça, il y a plein de chemins qui peuvent expliquer l'auto-sabotage. Ça
les conforte de retomber dans la souffrance un peu?
D'une certaine manière, c'est comme si c'est retrouver un repère qu'ils connaissent. Puis c'est notamment le cas avec les gens, par exemple, qui auraient une grande peur d'être abandonnés.
Oui.
Ils ont tellement mal à l'intérieur d'eux, là, ils ont tellement peur d'être abandonnés que pour réduire l'incertitude, ils commettent souvent un geste de soit de trahison
comme
ou
comme de l'infidélité.
C'est ça, pour dire, tiens, comme ça, là, gars, moi je l'ai fait, là, si tu me le fais, ça me fera moins mal parce que moi je l'ai déjà fait un peu, là, ça crée comme un coussin de toxicité.
Ouais, c'est pas sain, ça.
Ben, non, c'est pas sain, mais c'est vrai que ça rassure quelque chose dans l'esprit tourmenté d'une personne. C'est étrange, hein? C'est parce que l'équilibre psychologique, encore une fois, c'est complexe. On n'est pas des êtres de vertu pure et saine. T'sais, même si on a parfois la capacité d'aller vers des hauts niveaux de réflexion vertueux, de spiritualité même, c'est rare qu'on passe du temps là-dedans. Là. La majorité du temps, l'être humain va virailler dans des réactions affectives, puis il va se tourmenter avec des choses, il va avoir des souvenirs de blessures.
Mais quand t'es avec le bon partenaire, ça se peut que tout ça...
Oui, ça peut être moins fréquent.
Soit calme ou oui, mais ça peut se réactiver de temps en temps, mais oui. Somme toute, ça peut être doux, là, l'amour aussi.
Oui.
Ça se peut, là.
Oui, il y a des relations amoureuses qui vont vous enseigner plus de choses que d'autres. Il y a des relations amoureuses dans lesquelles vous allez vivre beaucoup d'aisance et peut-être que c'est pas fait pour durer. Il y a des relations de toutes sortes, là.
Mais en même temps, si on prend ce que tu as dit puis on le met à l'inverse, c'est pas sain aussi de penser que notre partenaire veut toujours s'auto-saboter puis auto-saboter notre couple.
Exact. Mais il y a un beau dicton qui dit « En trop grande quantité, une vertu détruit ses propres qualités. » Donc, c'est un peu...
Ouais, on devrait mettre ça sur un t-shirt.
C'est poussé à l'extrême, tout devient détraqué.
Oui, tout à fait.
Même chose pour la thérapie. Il y a des gens qui disent « Ça peut pas nuire aller voir un psychologue en thérapie. » C'est faux. Ça peut nuire. Il y a même un nom qui s'appelle les facteurs iatrogènes. C'est l'aidant qui génère un trouble chez la personne. En disant, regarde, là, t'as pas pensé que cette affaire-là, tu devrais le travailler, là? Parce que là, tu l'as... La personne, ah ouais, je savais pas que j'avais un trouble-là. Puis il peut déclencher à l'intérieur de l'individu des...
C'est une forme de gaslighting, ça?
Ben non, mais ben là, on parle plutôt d'une intervention, là, à travers un soin que ça déclenche un nouveau trouble.
Ouais.
Gaslighting, ça serait un détournement cognitif, c'est une stratégie de manipulation, là.
Moi, c'est un peu le même principe que lorsque tu vas te faire opérer, il arrive quelque chose qui n'était pas censé arriver.
Ah ouais.
C'est ça. D'une certaine manière, oui.
Je pense pas que le médecin, il est là. OK, on va gaslighter le poumon de Jacinthe.
Puis là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vivent sincèrement la compersion en dedans d'eux, tu sais, qui...
Toi-même.
Ben oui, mais on dirait que tu m'agaces souvent avec ça, mais on dirait que... Je suis persuadée que en donnant le meilleur de moi-même, puis là, je parle au moi, mais je veux dire, il y a plein de gens là, qui vivent ça, là, des gens que je connais là, qui sont comme ça, mais eux, c'est plus bon dans le milieu libertin, mettons. Mais non, même pas. Je connais, bon, si je prends exemple ma sœur ou des gens autour de moi qui sont dans des relations sécurisantes.
Oui.
Et qui dans lesquelles ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Donc, ils ont confiance que en donnant le meilleur de soi, ben si mon partenaire va ailleurs, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ben ça, ça fait partie de agir sur soi pour faire grandir le niveau de conscience à l'intérieur de soi. Sur quoi vous avez le contrôle dans votre vie?
C'est ça.
Vous n'avez pas le contrôle c'est sur les réactions de l'autre.
J'ai appris, alors j'ai pris sur des choses. C'est ça qu'on devrait tous
aspirer. On a le contrôle
aspirer.
Sur fuck all dans
on a le contrôle sur rien.
Ou à part nous autres, là, à part nos propres émotions.
On a le contrôle partiel sur nous.
Ben c'est, oui, effectivement.
Mais même surtout parce que tes hormones peuvent venir qu'à faire à générer des émotions
oui.
Pour lesquelles, puis d'ailleurs, demain, mercredi, on reçoit... Sonia Quintin et Chantal Langlois qui, on va parler de jeûne et tout ça, mais aussi un peu d'hormones.
Oui.
Ça va avoir des liens, là. Parce que là, ces temps-ci, je parle avec des femmes, surtout des femmes.
Oh, les femmes.
Sont toutes en préménopause. Ouais. Début quarantaine, 50. Je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en préménopause.
Ben, c'est la biologie.
Tout le monde vit des chamboulements d'hormones, des dépressions, des pertes de libido, montagnes russes d'émotions, puis tout ça serait dû aux hormones. Hey, c'est fou, là.
Ça a une immense influence.
Et c'est ça, fait qu'on n'a même pas le contrôle sur nos émotions.
Mais non, on a le contrôle partiel sur qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont apparus.
C'est ça.
C'est pour ça que je voudrais pas que les gens ils pensent que la jalousie, c'est toujours pathologique. Il faut pas essayer de la contrôler, il faut la maîtriser de manière saine. Donc, il faut commencer par l'accueillir, puis ensuite, on examine qu'est-ce qu'on en fait. Revenir sur le plan contextuel. Si un soin ponctuel n'est pas suffisant pour réguler votre jalousie, c'est que ça dépasse la... À quelque part, la réalité, vous êtes dans des distorsions. Là.
Ouais. Et c'est là que le terme lâcher prise prend toute son importance.
Mm-hmm.
Si on a le contrôle sur rien, il faut lâcher prise, mais en même temps, ça sert à rien de lâcher prise si on a du contrôle sur rien parce que nécessairement, on n'aurait pas besoin d'avoir du contrôle sur quelque chose.
Ouais.
Bon, je t'ai rendu profond, là.
Qui comprendront pas qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise.
Ouais.
Donc, moi, j'aime l'expliquer en second lieu en disant qu'il faut d'abord faire de l'acceptation de soi pour après lâcher prise. Parce qu'il faut que ça, c'est la prise intérieure, l'acceptation de soi. Le lâcher-prise, c'est je laisse aller quelque chose. Mais il faut d'abord qu'il y ait un point de prise solide à l'intérieur de soi pour ouvrir la main puis laisser partir l'ancien repère.
Ouais, j'aime ce que tu dis.
Fait que toujours au moins un point de contact. À l'intérieur de soi, à l'extérieur, à l'intérieur de soi. Puis là, on alterne. Puis c'est comme ça qu'on construit de nouvelles frontières beaucoup plus saines.
Fait qu'on est toujours en guerre et en paix avec nous et avec le monde.
Oui.
Dans le fond, on fait une guerre pour avoir la paix.
Ouais,
toujours.
C'est ça, puis on alterne.
Exact.
Ouais.
Les boys, c'est intéressant.
Ta face valait 2 millions. Wow.
Pas facile, lâcher prise.
Docteur Paul Simard, psychologue, on a quelqu'un qui a beaucoup de gratitude envers vous, docteur.
Ah oui, ah,
c'est
super.
Sur le live, on a quelqu'un ici là, qui a plein de la gratitude envers le docteur Paul Simard. psychologue. Merci à vous deux, mes animateurs préférés. Et c'est Stéphanie avec Ben des Becs. Merci, merci, merci. Ensuite, on a, on a quelqu'un qui ne veut pas qu'on nomme son nom, mais il y a beaucoup de gratitude pour les membres des AA qui ont fait de lui une meilleure personne. Bravo. Ça, vraiment, là, je vous lève mon chapeau, les gens.
Félicitations, mon
prennent
vieux.
En main, comme Cindy. On a d'ailleurs Cindy Roberge qui est passée ici pour parler là, de son parcours. Et vraiment, là, ça a inspiré des gens. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit suite à son passage. Ludivine, même chose.
Exactement.
On a eu des gens, des écrits qui ont écouté Si Sex Si, qui est un podcast lancé par Ludivine. Ce sont des histoires de l'imaginaire qui frôlent les fantasmes. Et c'est l'érotisme. Histoire à elle, l'érotisme. C'est vraiment très intéressant.
Elle a sorti son 13e épisode aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, exactement.
Si je ne m'abuse, sur le BDSM.
BDSM, exactement. Donc, elle va revenir assurément. Rapidement, Paul, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais aller là. Et on n'en a pas parlé avant d'entrer en onde, donc je sais pas.
Oh, misère.
Notre show de TV?
Non, mais oui! Hey, là, il faut que ça avance.
Ouais, hein?
Faut que ça avance, ça là. Mais non, c'est pas notre show de télé. C'est, en fait, c'est un sujet que dont moi et Max, on a discuté ensemble et on se demandait, parce qu'il y a des gens qui se tournent souvent vers le même type de personne physiquement. Hein? Lorsqu'une relation se termine, parfois, sans s'en rendre compte, et parfois, volontairement, ils ont un style de personne en particulier. Est-ce que ça peut venir, c'est surtout Max en fait qui se questionnait par rapport à ça, est-ce que ça peut avoir un impact? Je veux dire, c'est-tu bon, pas bon, ou ça n'a pas rapport, ou c'est-tu c'est un pattern que la personne tente de reproduire inconsciemment que d'aller vers le même genre de personne physiquement tout le temps?
C'est rassurant, la familiarité, comme on a dit tout à l'heure.
Ah, oh, ça vient rejoindre ça encore une fois.
Oui, mais ça aide-tu à faire le deuil? C'est-à-dire que si tu sors avec une femme qui est en tout point ou presque identique...
Ah oui, comme les vedettes là, qui repognent une espèce de... Oui,
Kanye West est un exemple
c'est ça,
parfait.
C'est super
là.
Similaire à leur ancien partenaire.
Kim Kardashian, qui est identique ou presque à Bianca, là, le même type de morphologie, le même type de tête. Est-ce que ça aide à passer à autre chose? C'est-à-dire c'est comme une pente descendante très douce vers un deuil ou c'est juste tourner le couteau dans puis tu te sacques toi-même des coups de pied d'un gosse?
Ben, la réponse pourra vous surprendre. La réponse, c'est oui, ça peut aider la personne, mais par contre, c'est un petit peu dans une optique non pas d'enrichissement de l'expérience, mais d'appauvrissement de l'expérience. Comme un fétiche.
C'est ça.
Tu sais, un fétiche, là, dans la paraphilie, là, c'est une réduction des sortes de stimulation pour aller toujours vers une source exclusive de plaisir et de gratification ultime. Fait qu'il y a des gens qui vont renfermer leur choix de partenaire toujours sur des indicateurs de plus en plus restreints, similaires et contrôlants. Ça va appauvrir le choix. Mais tant qu'ils l'ont, là, cette expérience-là, c'est correct. Ça fait pas de mal à personne. Ça leur fait du bien.
OK.
Mais c'est si ils l'ont pas, puis qu'ils auraient besoin d'avoir une expérience plus adaptée, spontanée, puis ils sont plus capables de faire preuve d'authenticité dans leur rapport interpersonnel, en dehors du fétiche, plus de plaisir, là, on commence à voir que ça crée des problèmes.
OK, ben c'est comme un junkie, dans le fond.
Exact.
Quand il y a la dope, il va bien, mais quand il l'a pas, ça va mal. Fait que c'est
pareil,
un problème.
Pareil.
Fait qu'on peut dire que c'est un problème.
Ben oui, ben la réduction des champs d'expérience, là, c'est un des facteurs, ça, qui décrit les troubles d'abus de substances, là. Mais c'est aussi ce qui décrit les dépendances affectives. Appauvrissement du champ d'expérience.
Hey, ça pourrait quasiment faire le sujet d'une autre émission complètement.
On le note, on le note.
Je pense que oui.
Vraiment.
Si on se rend à 10 000 clics j'aime, peut-être qu'on va sur...
Oui, ah, regardez-le,
toi. Like, commente, partage.
Au TikTok de Dr Paul Simard, psychologue. Au TikTok de Choix 98 Radio X. Au TikTok de Mademoiselle Trudel, la sexploratrice. Docteur, c'est déjà la fin. Ah oui. On a encore des beaux mots à ton égard qui entrent. Solide docteur, smart. Très,
Stéphanie?
Très intéressant et amazing l'information que tu donnes. Mel, Max et tout.
C'est imagine si les gens voudraient prendre rendez-vous.
Imagine.
Ils pourraient me contacter.
C'est là où je m'en allais, docteur
Smart. C'est vrai?
Comment pouvons-nous te contacter?
Dring, drong, dring, drong.
Il faudrait que les gens cherchent sur, mettons, Internet, docteur Paul Simard, psychologue, qui me contacte en privé. Puis là, je vous envoie tous les détails sur la prise de rendez-vous. Demain, il me reste deux places. Ceux qui veulent, il me reste deux places.
Yes! Et c'est sans compter tes fameux ateliers en ligne. Très intéressant.
Oui, moi, j'ai construit aussi tout un écosystème pour aider les gens. Il n'y a pas juste les consultations. Il y a des formations web qui viennent avec ça. Il y a des périodes de questions confidentielles, personnalisées également, que les gens peuvent faire. Donc, si ça vous gêne de poser des questions comme ça, là, quand on est en onde ou sur les réseaux sociaux, moi, j'ai mis en place sur mon site web un programme de questions confidentielles.
Yes, on adore.
C'est vraiment bien fait ton système. Oui. Sincèrement, là, et les vidéos que tu as faites, tu m'y as donné accès, puis j'ai eu la chance de naviguer un peu là-dedans, puis d'y aller en profondeur, c'est vraiment bon. Là.
Vraiment.
C'est pas tous les psychologues qui font ça. En fait, je pense qu'il y en a pas à part toi qui le font, d'après ce que je comprends.
Il y en a plein,
Mais tu as une approche différente.
Mais les autres sont moins bons. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi.
Mais une approche différente, ouais, qui est très accessible.
Et très vulgarisateur, ouais, aussi.
Vraiment.
J'ai réussi à comprendre des concepts que je n'avais jamais compris ailleurs, à part que quand c'est.
Ben souvent, c'est ça que les gens disent.
Ouais. Ouais, très bon.
Tant mieux, ça inspire.
Ben, merci beaucoup. En tout cas, les mots ne sont que de bons mots, hein, sur le live. Je tiens également à remercier Frank qui nous a partagé sa gratitude envers la belle journée de bouillie de sirop d'érable aujourd'hui. Et on a quelqu'un aussi qui nous parle des hormones. Sa femme vient d'entrer dans sa préménopause, donc ce serait un sujet de chronique intéressant. Mais absolument, c'est dans les plans. On va recevoir des spécialistes en hormonothérapie très, très bientôt. Donc, soyez à l'écoute.
C'est bien cool, le sirop d'érable. Hey Frank, ça tente de nous en amener, oui, d'ici la fin de la saison. Nous autres, on est partant. Hein? On aime bien ça, le sirop.
J'en ai goûté, moi, avant de m'en venir, tantôt. Gratitude!
C'était la première fois que t'en goûtais. On dirait que tu nous annonces ça comme si... Hey, j'ai goûté ça, vraiment.
Non, mais
c'est bon, hein, le sirop d'érable.
C'est mon beau-papa. Okay. Mon beau-papa, il a été chercher du sirop aujourd'hui. Ils l'ont fait bouillir. Ben oui, il m'a fait goûter ça tantôt.
Ah oui, il était bon?
Je l'aurais bu à la canne.
Moi aussi, je m'en fais à la maison. J'ai un érable sur mon terrain.
C'est vrai?
Et à chaque année, depuis que j'ai ma maison, je coule mon propre sirop.
Ça a commencé tôt cette année?
T'as un érable?
Ouais, je l'ai appelé le psychadorable.
Ah bon, on s'en va-tu?
C'est très drôle. Merci, Dr. Paul Simon, psychologue. Toujours un plaisir. Merci les auditeurs d'avoir participé en si grand nombre ce soir au 418-670-9098. C'est la fin. On vous souhaite une magnifique fin de soirée. Merci, Max. Toujours
merci
un plaisir
toi.
De travailler à tes côtés.
Pareil,
et merci, les gens qui étaient à l'écoute sur TikTok. La exploratrice sur TikTok, Dr. Paul Simon, psychologue, qui est déjà prêt à s'en aller. Merci, tout le monde. Ça a été un plaisir d'être en onde avec vous ce soir. C'est un rendez-vous demain soir, 22h, avec Kate et Dan de l'Auberge de la Passion. Vous étiez à l'écoute de la exploratrice sur les ondes de choix. 98.1 Radio X.
Il est temps que ça finisse.
Ça finisse.
Ok, on s'en va.
Bye. On est déjà prêt à s'en aller, lui. Là. Il était
calme. Exploratrice.
Avec Mel Trudel. Exploratrice. Radio X.